Alors, quand vous prenez le livre des Actes, vous avez le commencement de l'Église de Jésus-Christ. Et dès les premiers jours, juste après la Pentecôte, l'apôtre Pierre va faire un miracle. Il y avait un boiteux qui se tenait à la porte du temple. Et il va lui dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Aussitôt, le boiteux se lève, commence à sauter de joie, à louer Dieu, et toute la foule est en admiration devant le miracle que Dieu vient de faire. Et à ce moment-là, l'apôtre Pierre se met à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et il va leur dire une parole qui sera le thème de notre message ce matin. Ça se trouve en Actes 3, verset 19. Acte 3, verset 19. Donc, au milieu de tout son discours, l'apôtre Pierre va dire « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et j'aimerais vous parler ce matin de la repentance. On va juste s'incliner courtement dans la prière. Seigneur, nous te remercions encore pour toi-même, pour ta personne, pour Jésus-Christ, pour son sacrifice, sa mort pour nous, sa vie aussi, Seigneur. Merci pour la résurrection. Et merci, Seigneur, pour les Écritures, ta parole. Merci pour ton esprit aussi qui nous a été donné pour illuminer nos cœurs, pour nous permettre de comprendre ta parole, aussi pour nous changer, nous sanctifier, nous transformer, nous stimuler, nous réveiller et nous aider à vivre pour Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout cela. Nous te demandons encore que tu nous bénisses ce matin. Que tu fasses grâce et que ta parole ne revienne pas à toi sans effet, mais qu'elle nous fasse du bien à chacun. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la repentance, ça peut être parfois un sujet un peu tabou, un sujet qui dérange. Même le mot repentance, c'est désagréable à certains hein, quand ils entendent ça, repentance. Hein. J'ai déjà un coiffeur qui m'a dit « Oh là, parlez pas de ça, hein, non. On ne veut pas de ça ». Et c'est aussi parfois dans les milieux chrétiens, on n'est pas toujours très à l'aise aussi avec l'idée de la repentance. Alors on préfère l'enlever. Ou ne pas le dire, ou diluer. Alors on en a un bon exemple, c'est avec la traduction 21, donc la nouvelle traduction du 21e siècle. Donc cette traduction qui est très abordable, puisque pour le prix d'un café, on a une Bible, et ça c'est formidable. Mais c'est une traduction où on n'a pas voulu être trop direct. Hein, on ne veut pas, parce que repentance quand même, repentez-vous, ça... Ça grince. Alors, quand Jésus dit « Repentez-vous », on change et on écrit plutôt « Changez d'attitude ». Mais il y a quand même une différence entre « Repentez-vous », « Changez d'attitude ». C'est que la repentance, ça fait nécessairement référence au péché et à la culpabilité devant Dieu. Tandis que le changer d'attitude, c'est quand même beaucoup plus lissé, un discours qui plaît davantage, qui adoucit, ça le rend plus acceptable, plus tolérable. Puis chacun est libre de penser ce qu'il veut derrière l'expression. Changer d'attitude, ça peut être pour plein de choses. On dit en quelque sorte, c'est pas bien ton comportement, change d'attitude. Alors que Dieu dit, repentez-vous, tu es coupable et plie les genoux devant moi. Parce que tu as besoin de te repentir. Et Dieu ne demande pas simplement de changer d'attitude, mais il nous demande de nous repentir. Alors, qu'est-ce que c'est la repentance ? C'est un changement dans sa manière de penser, et c'est un demi-tour. Je prends conscience que je n'étais pas sur la bonne voie, que je ne fais pas ce qui est bien, et je fais demi-tour, carrément. La repentance, elle implique un changement et une action. Ici, Pierre dit « Repentez-vous et convertissez-vous ». Donc, il y a une véritable action et quelque chose d'actif. Hein. Ce n'est pas simplement du remords. Vous savez, le remords, parfois on a des remords. Hein. On regrette les conséquences de ses actes ou de ses décisions. « J'ai pas bien agi dans mon couple, ça a mené au divorce, j'ai des remords ». Ah, si j'avais su, eh ben j'aurais pas agi comme ça. J'ai fait des excès dans ma vie, ça a conduit à une maladie, et j'ai du remords. Si j'avais su, eh ben j'aurais pas agi de cette manière. J'ai pas été honnête dans mon travail, je suis maintenant au chômage. Ah, si j'avais su. Ça, c'est du remords. Quelqu'un a dit, l'enfer est peuplé de personnes qui ont des remords. Plein. Mais par contre, le ciel est peuplé de personnes qui se sont vraiment repenties, de ceux qui sont passés par la repentance. On en a un exemple avec Judas, vous savez, qui a trahi Jésus, et il a eu du remords. Il ne s'est pas repenti, parce que si c'était repenti, eh bien, il aurait tout fait pour essayer d'empêcher la crucifixion de Jésus-Christ. Non simplement, voilà, il était désolé de ses actes, il a eu du remords, et puis il est allé se pendre. Ça a conduit à sa propre mort. Comment se manifeste une vraie repentance? Une vraie repentance se manifeste d'abord par de la contrition. Et on en a un exemple évident dans le psaume 51. Un homme qui vit une profonde repentance. Alors certains connaissent ce psaume, d'autres le connaissent peut-être pas. Donc il a été écrit par le roi David qui vient de pécher. Alors il a non seulement commis un adultère, mais en plus il a essayé de cacher son adultère en faisant tuer donc le mari de Bathsheba. Et David n'est pas simplement désolé de ce qu'il a fait, mais il est brisé. Il est brisé dans son âme d'avoir été cet homme-là qui était capable de faire une chose pareille. Et il éprouve de la contrition. Regardez, on va lire ensemble le psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis tes murs, les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Et là, David dévoile son cœur ici par cette prière de repentance et il couche par écrit finalement les clés d'une vraie repentance. Et on le voit d'abord dans la contrition. Il dit au verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et le mot hébreu qui était traduit par contrit, il signifie se courber. Être brisé, écrasé, s'effondrer, s'affaisser, écrasé en morceaux, être humilié. Voilà ce qu'est être contrit. Et la vraie repentance, elle entraîne un brisement parce qu'il y a un vif sentiment du péché. On voit le péché dans sa vie. L'âme mesure combien elle est pécheresse devant la personne d'un Dieu saint, pur et sans péché. On va revenir après sur le psaume 51, mais un autre exemple d'une femme qui était aussi contrite, c'est cette femme de mauvaise vie, peut-être probablement une prostituée, qui est venue derrière Jésus dans la maison de Simon, qui avait ramené du parfum, qui a commencé à répandre ce parfum sur les pieds de Jésus, qui l'a mouillé de ses larmes, qui a essuyé avec ses cheveux. Et son geste, ses larmes, montraient sa contrition. Elle était brisée, elle était une femme humiliée, voilà, petite, hein, affaissée devant Jésus à cause de sa faute. Donc la contrition. Ensuite, la vraie repentance amène la confession. Confesser son péché. Confesser à qui son péché ? Eh bien, d'abord confesser son péché à Dieu. Et c'est ce que on voit ici dans le psaume 51. Qu'est-ce que dit David au verset 5 et 6 ? Il dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et il faut avoir conscience que quand on pêche, c'est d'abord premièrement contre Dieu qu'on est en train de pécher. Pour David, quand il a commis l'adultère et puis ensuite le meurtre, et bien c'est la loi de Dieu qui était transgressée. Il venait de désobéir à la loi de Dieu. C'était pas simplement un drame dans la vie de ce couple. Il venait pas simplement de gâcher la vie d'un couple, mais il venait aussi de transgresser la loi divine, la loi de Dieu. Et les hommes en ont pas forcément conscience. Ils vont voler, ils vont tricher, ils vont haïr, détester, ils vont être violents, mentir, convoiter, et ils se disent « Ah ben ça me concerne, hein, c'est moi ». Non, quand on pêche, eh bien on pêche contre Dieu. Parce qu'on transgresse les lois morales de Dieu. Dieu a dit « Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point ni la femme, ni quelconque objet de ton prochain. » Et puis Dieu ajoute d'autres commandements qui sont inscrits finalement dans la conscience. Et quand on transgresse, on désobéit à la loi divine, on désobéit à Dieu. Et la vraie repentance, elle amène une confession à Dieu. « J'ai péché contre toi seul. » Pourquoi David dit « contre toi seul » ? Parce que c'est le premier offensé. C'est le premier offensé. Et David a bien conscience qu'il est coupable de cette transgression devant Dieu. Alors il confesse, il reconnaît sa faute devant Dieu. Il expose en fait sa faute. Et c'est ça la confession. Quand on confesse son péché à Dieu, on l'expose, on le dit. C'est pas juste « j'ai péché d'une manière floue », non. « J'ai fait ce qui est mal à tes yeux ». Voilà ce que j'ai fait. Et c'est dur de reconnaître son péché. Mais il n'y a pas de repentance si on ne reconnaît pas son péché. Il faut dire à Dieu, dire qu'on reconnaît sa culpabilité. Et puis, demander son pardon. C'est ce que David dit, versets 3 et 4, il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. » On expose, on reconnaît, il y a de la contrition, un brisement, et on demande le pardon, la miséricorde. Aussi parfois, quand on dit confession, eh bien confession premièrement devant Dieu, mais parfois on doit aussi confesser nos fautes ou confesser notre offense à ceux que nous avons lésés ou ceux que nous avons scandalisés. Donc c'est aussi aux autres que l'on confesse et Dieu nous l'impose. Jésus a dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande près de l'autel, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis ensuite tu viendras avec ton offrande et tu la présenteras devant moi. » Et donc, c'est peut-être mon frère a quelque chose contre moi. Je vais me réconcilier. Et parfois, eh bien, on demande pardon. Pardon. C'est aussi quelque chose de difficile, demander pardon. On a toujours une explication pour essayer de minimiser et dire, voilà. Je m'excuse. Pardon. Pardon. Et Dieu aime les cœurs humbles qui savent aussi reconnaître là où ils ont eu tort. Certains se disent, ah, j'ai demandé pardon à Dieu, c'est bon. Non ? Je demande pardon à Dieu, mais si j'ai péché contre mon frère, ben je lui demande aussi pardon. C'est voilà. Après, on rétablit les relations. Parce que quand on demande simplement pardon à Dieu et on dit c'est bon, eh ben on se dit j'ai rétabli ma relation avec Dieu, mais ma relation avec mon frère n'est pas rétablie. Et finalement, eh ben c'est pas parfait. Et si c'est pas parfait avec mes frères, ben c'est pas parfait non plus avec Dieu. Il faut se le dire. Parfois même, parfois il peut y avoir aussi une confession publique. Et quand il y a quelque chose qui est public, un scandale public, eh ben ça amène une confession aussi publique, où on reconnaît d'une manière publique, on demande pardon. C'est pas très plaisant, mais quand il y a un scandale, ça ne se résout parfois que d'une manière qui est radicale. Hein, c'est voilà, devant tout le monde. Sinon, on ne peut pas parler de vraie repentance. La contrition, la confession, et puis enfin, la vraie repentance, elle amène l'abandon, en fait, du péché. L'abandon de ce que l'on faisait. Et si on fait demi-tour, c'est parce qu'on ne veut plus recommencer ce qu'on a fait, et pour la chose pour laquelle on a demandé pardon. Combien sont désolés du péché, désolés d'avoir offensé Dieu? Et pourtant, quand on regarde leur vie, ils ne changent pas. Ils continuent. Ils sont désolés, et puis ben, on recommence. Et puis désolés, et on recommence. Et on continue à faire ce qu'on faisait. On tolère ce que Dieu désapprouve, même parmi les chrétiens. Et on minimise le péché. Et ce n'est pas de la repentance. La repentance, ça entraîne un changement radical, puisque c'est un demi-tour, il y a un vrai changement. Et ça se voit. Quand le prophète Jean-Baptiste est venu au début des évangiles prêcher, qu'est-ce qu'il a dit ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez du fruit digne de la repentance. Et une vraie repentance, elle produit du fruit qui montre la réalité de la repentance. On voit, mais oui, il y a une vraie repentance. Il y a un changement, c'est radical. Il y a un avant, il y a un après. On ne fait plus ce qu'on faisait. Je jurais, je ne jure plus. Je me suis repenti. Je volais, je ne vole plus. Je me suis repenti. Je méprisais mon corps par des excès. Je ne le fais plus. Je me suis repenti. Je vivais pour moi-même, rien que moi. Je me repens. Je cherche à vivre pour les autres. À m'occuper des autres. Il y a un changement. Regardez acte 26, verset 20. L'apôtre Paul dit « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu » avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Certains ont jeté leur drogue dans la cuvette des toilettes. Certains ont vendu tous leurs biens. Certains se sont réconciliés avec ceux qu'ils avaient offensés. Ils ont demandé pardon. Certains sont allés rendre, dédommager ceux qu'ils avaient lésés ou ils avaient volé. Ils sont allés le rendre. Certains ont pris des chemins opposés, complètement opposés, parce qu'ils voulaient vraiment se repentir et tourner la page sur la vie passée. Il y a un fruit ou des fruits, des œuvres dignes de la repentance. Si je me repens, alors je change. Alors je répare. Je fais quelque chose. J'agis. Ça, c'est le vrai christianisme, finalement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est rompu, qui est habitué à la repentance et qui peut se repentir. Regardez, l'apôtre Jacques, je vous lis simplement, il dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? La foi sans les œuvres est inutile. Jacques ne dit pas qu'il faut des œuvres pour être sauvé. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais il dit qu'il n'y a pas de témoignage chrétien s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas d'œuvre. S'il n'y a pas de changement et on ne fait rien, alors ben... Le témoignage chrétien est nul, néant. C'est par les œuvres que la foi se manifeste, elle se voit. Et pour la repentance, c'est la même chose. La vraie repentance, elle amène à un changement. Et on regarde la personne, on dit oh, vraiment, elle a changé. Hein. Elle s'est repentie. Hein. C'est plus la même personne. Je vois la différence. Quand le monde regarde une personne et est incapable de voir votre repentance, ben, où est la repentance ? Ça doit se voir. Maintenant, il faut savoir que la repentance, c'est aussi quelque chose que Dieu donne, qu'il accorde dans sa bonté. Pourquoi ? Parce que, à force de vivre au milieu du péché et de pratiquer même parfois nous-mêmes le péché, eh bien, on vit tous une désensibilisation. Nous sommes désensibilisés au péché. De moins en moins sensible au mal. Vous savez, j'ai déjà essayé de faire de la désensibilisation pour les allergies. Bon, ça n'a pas marché pour moi. Mais parfois, ça fonctionne très bien. Et comment on fait ? Eh bien, on met en contact avec l'allergène, mais à toute petite dose. Et puis, on avance comme ça, et puis toujours un petit peu, un petit peu, un petit peu. Puis à force, eh bien, petit à petit, on se désensibilise. Ben, c'est la même chose. La même chose dans le monde. Qu'est-ce que fait le monde ? Il nous met en contact avec le péché, à petite dose, par des publicités, par des émissions, par... voilà, il nous lance des choses et le monde s'habitue, il se désensibilise. C'est pour ça qu'il y a 100 ans, il y a des choses, c'était un scandale. Aujourd'hui, c'est normal. Et même, on le défend, en disant, mais c'est la liberté, la liberté. Et bien, c'est pareil aussi pour nous, enfants de Dieu, chrétiens. C'est la même chose dans notre vie. Si on laisse cohabiter le péché, à petite dose, un tout petit peu, non, pas grand-chose. Hein. Non, non, quand même, moi, je veux marcher avec Jésus. Hein. Mais on laisse un petit peu, un petit peu. Ben, à la fin, on est désensibilisé. Et on se dit, c'est pas si grave que ça. Alors que c'est grave. Mais on s'est habitué. On s'est habitué. C'est quand même fort quand le monde... dit, mais ça c'est indigne. Quand le monde le dit et qu'un enfant de Dieu le fait quand même. C'est incroyable. Ou bien le monde dit, c'est mauvais, il ne faut pas faire ça. Et le chrétien le fait quand même. Alors quelle est la solution à cette désensibilisation ? Il n'y a qu'une solution, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut venir réveiller. Réveiller l'âme, réveiller le pécheur, réveiller le chrétien. Il n'y a que Dieu qui puisse remédier à cela. Il faut son intervention pour nous faire réaliser le mal, le péché et la violation de sa loi morale. Paul va dire à Timothée qu'il faut redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Que Dieu leur fasse grâce. Et Dieu peut donner la repentance. C'est-à-dire, il peut amener l'homme à une prise de conscience de son péché. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été donné. Hein. Il convainc de péché, de justice, de jugement. Il faut que le Saint-Esprit agisse pour réveiller, resensibiliser la personne. C'est absolument nécessaire. Alors, on est tous d'accord qu'il y a un libre arbitre. On répond à un appel, à l'appel de Dieu. Et on croit. Dieu ne force pas. Il appelle, simplement. Il appelle. Mais il agit quand même dans la vie de l'homme pour lui faire prendre conscience de son péché, pour le sensibiliser sur ce qu'il a perdu. Il y a un écrivain anglais qui se nomme Woolston qui a dit « La repentance est l'œuvre salutaire du Saint-Esprit par laquelle le pécheur est amené à prendre parti pour Dieu contre lui-même et à regarder à lui pour son salut. La repentance est l'œuvre salutaire du Saint-Esprit par laquelle le pécheur est amené à prendre parti pour Dieu contre lui-même et à regarder à lui pour son salut. Prendre parti pour Dieu contre soi-même. C'est très important. Il faut apprendre à se regarder soi-même, à prendre du recul et à se dire « Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais ? Ou qu'est-ce que j'ai fait ?» Et l'homme intelligent, eh ben, il va se condamner lui-même. Il jette un regard sur lui-même et il va se dire « Ce que j'ai fait n'est pas bien. C'est pas acceptable. C'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Je veux changer. Je ne veux plus être cet homme-là. Je ne veux plus être cette femme-là. » On se condamne. Alors, eh bien, on se tourne vers Dieu et on implore son pardon. On demande son aide. Ça, c'est prendre parti pour Dieu contre soi-même. Et tout homme doit faire cela s'il veut être sauvé dans sa vie. Et vous savez, on est sauvé une fois quand on le fait vraiment. Hein, on se convertit à Jésus-Christ, mais même nous, chrétiens, il faut qu'on recommence sans cesse si on veut se sauver soi-même. Hein. C'est très important. Paul a dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais voilà, si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, chrétiens, eh bien un jour on est châtié. Donc il faut se juger soi-même. Je me condamne, je me repens. C'est ce que Job a dit. Il dit, je me condamne, je me repens sur la poussière et sur la cendre. Bonne attitude. Et c'était salutaire pour lui, c'était la délivrance. La Bible raconte aussi l'histoire d'un fils, vous vous souvenez, qui a voulu prendre son héritage et partir loin de son père et aller s'amuser. Et il a tout dilapidé, il a fait la fête. C'est-à-dire aujourd'hui, il est allé en boîte de nuit, voilà, il a tout dilapidé, bien amusé. Puis une fois qu'il était dans la misère, il est écrit, « Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et la première chose, c'est, il est dit, « Étant rentré en lui-même. » Il se regarde lui-même, il regarde sa vie, il regarde ses choix, les décisions qu'il a prises. Il prend conscience de ses erreurs, de ses fautes, de ce qu'il n'aurait pas dû faire. Alors les choses sont ce qu'elles sont, mais voilà. C'est à cause de mon péché que je suis là dans la boue avec les cochons. Et c'est la contrition. C'est important, se condamner soi-même. Pas pour se faire du mal à soi-même. Mais au contraire, parce que c'est salutaire, parce que c'est le commencement de la repentance. Et la repentance, c'est bon, bon pour l'homme. C'est le moyen de se réconcilier avec Dieu et d'avoir la paix avec Dieu. Alors le jeune homme a pris une décision. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel d'abord. J'ai péché contre toi, ô Dieu. Et ensuite, j'ai péché contre toi, mon père. Dieu d'abord. Et c'est la confession. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et puis l'action. Il est dit ensuite, il se leva, il alla vers son père et il a fait tout ce qu'il avait dit qu'il allait faire. C'est un demi-tour. Il n'y a pas d'homme et pas de femme qui ne puisse être sauvé s'il ne fait pas ce demi-tour dans sa vie. Pas de salut sans une vraie repentance. Luc 13, versets 1 à 3. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà, des Juifs ont fait des sacrifices, et puis ben, Pilate les a tués. Donc, il a mélangé leur sang avec le sang des sacrifices. Et verset 2, Jésus leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Parce qu'ils ont souffert une mort horrible ? Est-ce qu'ils étaient des plus grands pécheurs ?» Il leur dit, verset 3, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » On pourrait se dire, c'est dur cette parole. Hein. Jésus est amour, Jésus, voilà, le pardon, tendre la joue. Mais ici, c'est une parole aussi importante qu'il dit. C'est que devant Dieu, nous sommes tous coupables. Nous avons tous transgressé sa loi divine. Et on a tous besoin de repentance. Sinon, eh bien, nous périrons dans l'endurcissement de notre cœur. Parce que notre cœur a été dur. Il a été une pierre et il n'a pas voulu se courber, être brisé, contrit et demander pardon. Il poursuit, regardez verset 4. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et Jésus veut réveiller ici. On a le choix, on a tous le choix. Mais personne ne va échapper au dernier jour où là, eh bien, ses actions seront pesées, le bien qu'il a fait et le mal qu'il a fait. Et il ne faut pas trop compter sur le bien en se disant « Bon, ça va, j'ai quand même fait du bien dans ma vie. » Parce que le bien que l'on a fait n'effacera pas le mal que l'on a fait. Et Dieu ne... Le bien, c'est toujours bien. Hein, c'est bien, mais le mal, c'est ça qui nous condamne. Et si j'ai transgressé une loi de Dieu, ben je suis coupable. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc si j'ai péché une fois, ben c'est la mort. À moins qu'il y ait repentance et à moins que Dieu efface vos péchés. Alors là, il ne restera que le bien. Avoir ses péchés effacés. Acte 3, verset 19. On reprend ce verset pour terminer. Acte 3, 19. Pierre dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Il y a une repentance et une conversion à la personne de Jésus-Christ. Et c'est lui qui efface nos péchés. Et on retrouve une bonne conscience devant Dieu. Jésus, vous le savez, a donné sa vie pour vous. Il a offert sa vie. Il a été frappé à votre place. Mais ce salut merveilleux qu'il vous donne, la vie éternelle, ça ne sera effectif que si vous vous repentez. Si vous ne vous repentez pas, le salut vous est offert, mais vous ne l'avez pas pris. Et un jour, eh bien, vous serez les mains vides devant le trône de Dieu. Savez-vous que le mot « convertissez-vous », en fait, ici en grec, c'est « tournez-vous ». Convertissez-vous à Dieu, à Jésus-Christ. C'est « tournez-vous vers lui ». Invoquez-le. « Seigneur, sauve-moi. Je suis pécheur. Pardonne-moi. » C'est la repentance. Alors, vous ne périrez pas si vous le faites. Et vous aurez la vie éternelle. On va s'incliner dans la prière.